Bienvenue dans l'émission Chantée pour le Seigneur. Je rappelle qu'elle est en lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors. Bonjour Martine.
Bonjour Imanol et bonjour à tous.
Alors de quel chant allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, Imanol, je vous propose le chant suivant, « À toi la gloire, ô ressuscité », dont l'auteur est Edmond Budry, le compositeur Georges Friedrich Händel, parce qu'il est tiré du fameux Canticorum Jubilo de Händel. Il a été publié dans Chantons en Église au numéro 157 et dans Signes Musique au numéro 54. Et nous allons écouter ce magnifique chant festif et joyeux, interprété par l'ensemble Saint-Séverin de Paris, de l'église du même nom d'ailleurs. Ce chant peut être pris, bien sûr, et chanté comme chant d'envoi lors de la veillée pascale. Donc nous l'écoutons.
Martine, dites-moi, les chrétiens viennent de vivre la veillée pascale et la résurrection du Christ, mais quel est le sens de la veillée pascale ?
Très bonne question, Imanol. C'est une très très belle messe, une des plus belles messes, sinon la plus belle de l'année, puisque c'est là où tout commence, bien sûr, avec mort et résurrection du Christ. Le long silence du samedi saint se termine. La nuit de la joie et de la délivrance va s'ouvrir. La veillée pascale clôt la semaine sainte et se tient de nuit, entre le coucher du soleil du samedi saint et le lever du soleil de Pâques. Ceux et celles qui ont en charge d'ailleurs de la préparation de la nuit de la résurrection auront à cœur de ne pas oublier que la veillée pascale est avant tout et fondamentalement une veillée. Cela veut dire, Imanol, qu'on prend tout le temps qu'il faut pour célébrer et que l'horloge qui tourne cesse au moins cette nuit-là d'être une obsession. Il n'y a pas de rôti dans le four, comme on dit très souvent lors des dimanches matins aux messes dominicales. Veiller, cela suppose la durée. Durée des rites. Surtout ne pas les bousculer. Leur donner toute l'épaisseur dont ils ont besoin, durée des chants, leur offrir un prélude, des interludes, un postlude, et oser aller au-delà des éternelles deux strophes. Ils se rappelleront aussi les racines juives de cette nuit, En effet, la Pâque juive est une veille où l'on fait mémoire de Dieu, qui le premier a veillé pour faire passer son peuple des ténèbres à la lumière. La Pâque chrétienne, elle aussi, est une veille où les chrétiens ravivent leur mémoire. En cette nuit, Dieu fait passer son Fils de la mort à la vie. La sortie d'Égypte fait entrer le peuple dans la première alliance. Le matin de Pâques fait entrer les disciples du Christ dans la nouvelle alliance. Avec Moïse, le peuple juif passait de l'esclavage à la liberté. En Jésus, qui nous libère de la nuit du péché, nous passons à une vie nouvelle. Et parce qu'elle est mémoire des merveilles réalisées par le Dieu de l'Alliance, la veillée pascale est action de grâce. Faire mémoire commence par dire merci. Merci pour les merveilles accomplies pour le peuple choisi. Merci pour celles accomplies pour le nouvel Israël. Il reste que toute veillée pascale doit nous laisser une fin. Certes, Immanuel, le Christ est ressuscité. Certes, il se donne à nous dans sa parole et dans son corps. Mais sa seigneurie n'est pas encore pleinement accomplie. Cette nuit où nous veillons dit que notre vie entière doit être veille. Rester en tenue de travail, garder les lampes allumées, être comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Il faut aller se replonger dans l'évangile de Luc au chapitre 12, versets 35 et 36. La veillée pascale est une image et un condensé de toute l'aventure du baptisé. Dans de nombreuses paroisses, la veillée pascale rassemble depuis quelques années autant de fidèles que la nuit de Noël. Alors bon, je ne vous dis pas qu'avec le Covid, il y a eu quelques changements. C'est le signe des temps. En effet, signe que les communautés, pour reprendre les termes de la monition du missel, qui est introduit à la liturgie de la parole, ont soif. En cette nuit belle entre toutes, de célébrer le Dieu qui, dans les temps passés, a sauvé son peuple et qui, dans ces temps qui sont les derniers, nous a envoyé son Fils comme rédempteur.
Mais alors, quels sont les différents temps de cette veillée, Martine?
Alors effectivement, il y a quatre temps indissociables et indispensables pour la compréhension et pour notre soif. La célébration de la veillée ou vigile pascale débute par la bénédiction du feu et la liturgie de la lumière. Cette célébration clôt le triduum pascal et ouvre à la fête de Pâques. Elle prend le temps de faire mémoire des merveilles de Dieu au cours de l'histoire. Elle se déroule en quatre temps, bien sûr, essentiels. Avec la liturgie, d'ailleurs, de la vigile pascale, s'ouvre la fête de Pâques. La fête des fêtes, la solennité des solennités, comme disait saint Augustin. Dans la plus sainte des nuits, la flamme du cierge pascal brille en signe de la victoire définitive du Christ sur la mort. La veillée pascale, l'annonce de la résurrection, victoire sur les ténèbres, se fait tout au long de la liturgie, du feu nouveau à l'envoi, en passant par le célèbre Exultet qui en constitue le cœur, et aussi le Gloria retrouvé, que nous avions un tout petit peu retrouvé lors de la messe chrismale, lors du Jeudi Saint, mais qui s'est interrompu, bien sûr, avec le Vendredi Saint. Et donc, qui en constitue le cœur, comme je vous disais, l'Exultet, et aussi le Gloria, bien sûr, et l'Alléluia solennelle, l'Évangile, la profession de foi baptismale, les baptêmes. Nous sommes rassemblés pour veiller auprès du ressuscité. Alors, donc, il y a quatre étapes. La liturgie de la lumière, qui en est la première. Nous célébrons donc en Jésus mort et ressuscité, celui qui illumine nos ténèbres. Cette liturgie ne prendra tout son sens que si l'on attend la nuit tombante. Évidemment, pour un feu, c'est quand même beaucoup plus visible. Si le feu est un vrai et grand feu, si l'on allume à ce feu un cierge pascal unique, même si la veillée rassemble plusieurs paroisses, bien sûr, si l'on voit sa flamme se propager parmi les baptisés, si les fidèles entrent en procession à sa suite. À l'intérieur même de cette liturgie de la lumière doit être ménagée d'ailleurs une lente et sûre progression. La célébration commencera dans une joie toute intérieure. L'exultet solennel sera juste après. Elle prendra de l'ampleur avec l'allumage des cierges, comme je vous disais, des fidèles. Elle éclatera dans l'annonce solennelle de Pâques, et c'est là l'exultet. Magnifique. La deuxième partie est la liturgie de la parole. Nous écoutons à ce moment-là pourquoi cette nuit est pour nous la nuit de vrai bonheur. La veillée pascale comprend sept textes du Premier Testament et deux du Nouveau. Les textes du Premier Testament sont tirés de la loi et des prophètes et sont traditionnels pour la plupart, tant en Orient qu'en Occident d'ailleurs. Du Nouveau Testament, nous lisons un texte de l'apôtre et un autre de l'Évangile. Ainsi, en partant de Moïse et de tous les prophètes, confère Luc au chapitre 24, verset 27, l'Église interprète le mystère pascal du Christ. Partout où on le peut d'ailleurs, on proclamera ces lectures intégralement. De cette manière, on observera le caractère même de la veillée pascale qui exige la durée. Il y a donc ensuite, directement derrière, la liturgie baptismale. Alors, la liturgie baptismale, c'est que ben, nous disons oui au Seigneur. Nous disons oui au Seigneur de vie qui marche avec son peuple. Que l'on célèbre ou non des baptêmes, la liturgie de l'eau est un des temps forts de la veillée pascale, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de baptême, la liturgie de l'eau et liturgie baptismale, elle a lieu. Donc, ce rite est composé de deux moments importants, la bénédiction de l'eau et l'aspersion, et il faut à ce moment-là bien soigner les objets. Dans bien des églises, une grande vasque est décorée, éclairée et fleurie. Donc il faut éviter, bien sûr, j'en souris, mais les bassines à confiture, comme leur nom l'indique, elles ne sont pas des objets liturgiques. Alors après la bénédiction, deux gestes sont possibles. Si l'on est un peu nombreux, chacun peut venir se signer. Quand il y a du monde, il faut mieux recourir à l'aspersion. On remplira un beau récipient à la vasque centrale, et l'aspersion sera faite dans toute l'église à l'aide d'un rameau verdoyant, par exemple. Et pendant ce temps, on chante un chant qui fait mémoire de notre baptême. Par exemple, J'ai vu l'eau vive. Alors, la dernière étape, la quatrième étape, est la liturgie eucharistique. Nous communions au pain, au même pain, et devenons ce que nous sommes, le corps du Christ. La célébration de l'Eucharistie est la quatrième partie donc de cette veillée et son point culminant. Car elle est par excellence le sacrement pascal, mémorial du sacrifice de la croix et présence du ressuscité, terme de l'imitation chrétienne, anticipation de la Pâque éternelle. On veillera d'ailleurs à ce que cette liturgie eucharistique ne se déroule pas avec rapidité, mais au contraire, que les rites et les paroles obtiennent le maximum d'expressivité. Et je rajouterai la dernière étape, on va dire, le rite et de conclusion, avec le chant d'envoi que nous avons écouté au début de cette émission. Alors, Imanol, je vous dis tout de suite, Christ est ressuscité, Alléluia. Et écoutons le fameux Alléluia pascal, Alléluia grégorien.
Alléluia.
Au revoir Martine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau volet de Chanter pour le Seigneur.
Au revoir Emmanuel, et au revoir à tous.